Donc, je vais commencer par vous indiquer pourquoi je me suis lancé dans ce travail. Parce que, au départ, je ne suis pas du tout spécialiste de l'Algérie, ni d'ailleurs d'Algérie, mais j'ai travaillé sur l'immigration en Alsace. Or, il se trouve qu'en étudiant cette question, on s'aperçoit très vite, hein, je pense que ce sera très compliqué, que j'ai eu, avant la guerre de 40, il n'y a quasiment aucun l'Algérien, qui a fait état en Algérien par communauté, même si l'Algérie n'existe pas encore état, par chaque temps pour les etc. Donc il n'y a pratiquement aucun Algérien en Alsace avant la deuxième guerre. En gros, ben, une vingtaine dans le Jarin, une vingtaine dans le Rhône. C'est quelque chose. Quand on a dit dans la région lyonnaise, autant dans le Pas-de-Calais, plus de 25 000 dans la région parisienne. Donc l'Alsace, ce n'est pas une région d'immigration. Après la guerre, en 1963, il y a 7 000 Algériens en Alsace. Et ça n'arrête pas d'augmenter jusqu'en 1965, lorsque la libre circulation qui était prévue par les accords de Lyon, par les dons de la Méditerranée, est interrompue. Donc, moi, ça me commande aujourd'hui, hein, ça m'a interpellé. Et comment se fait-il que pendant cette guerre, il y a eu un tel afflux, c'est-à-dire de zéro pratiquement, à 7000 Algériens qui s'implantent en Alsace. Et dans cette implantation, la majorité s'implante en province, et notamment Mulhouse et Bassin-Classique, et tenue à peu près dans le Bas-Rhin et surtout dans la ville de Strasbourg, et puis un petit peu du côté de l'île de Bronne, mais c'est pas grand chose. Et votre sein de ce moment. Voilà, alors, donc ça c'est ce qui m'a donné à essayer de comprendre. Alors pour essayer de commencer dans le sujet, j'ai eu accès aux archives des renseignements généraux qui m'ont été ouvertes. Sans problème. Et donc là, il y a une masse, d'ailleurs, c'est le grand problème de l'histoire contemporaine, c'est qu'on est submergé de papiers, c'est extrêmement. C'est énorme comme masse de papiers qu'on a découpé. Et donc, à partir des papiers des renseignements généraux, qu'il ne faut pas prendre par convention, qu'il faut critiquer, qui ne sont pas très bons jusqu'en 1956, qui sont meilleurs après 1956. Parce qu'ils évoluent leur méthode, leur réseau d'informateurs meilleur ensuite. Et disons, on arrive à reconstituer ce qu'a été la guerre d'Algérie en Alsace. Car il y a effectivement une guerre qui est passée inaperçue pour beaucoup, même pour la grande majorité des Alsaciens, mais qui a quand même existé. Alors, quelle est la spécificité de la guerre d'Algérie en Alsace. D'abord, quelque chose d'important, c'est la situation frontalière de l'Alsace, proche de l'Allemagne. Or, c'est dans l'Allemagne que se trouvaient, à partir de 1957, les dirigeants de la Fédération de France du FLN, donc Omar Boudaoud et ses collègues, donc Yarmouk, etc., se trouvaient en Allemagne, autour de Cologne, mais ils n'habitaient pas tous ensemble, pas dans la même ville, pas toujours au même endroit. Et puis la Suisse, puisqu'en Suisse, il y avait une forte, des appuis très importants de FLN, et c'était en Suisse que passait l'argent qui était récolté en France. Donc cette situation frontalière est intéressante. Deuxièmement, autre spécificité de l'Alsace, et qui explique en grande partie les caractéristiques de l'immigration algérienne, c'est que la haute Alsace, la région de Strasbourg aussi, mais de manière moins visible, la haute Alsace, en gros la côte de Colmar, a été libérée par les tirailleurs algériens. Et ces tirailleurs algériens ont été surtout recrutés dans la région de Constantine. Et donc il y avait aussi une partie qui a été recrutée du côté de Tansen, c'est-à-dire à l'ouest, et c'est là qu'il y a été recrutée. Mais c'est essentiellement la région du département de Constantine, le nord Constantine, la région d'Erbilia à Grarel, au-dessus de l'eau qui est désolée, du côté de Akuna et de Kenshin. Or, ces tirailleurs algériens qui libèrent l'Alsace, en 1944-1945, certains vont jusqu'à Stuttgart, hein, certains restent, connaissent les Alsaciennes, certains les épousent, d'autres n'ont pas encore du village, et s'installent. Néanmoins, la plus grande partie de ces tirailleurs sont renvoyés en Algérie car, au bout de 6 mois, j'allais dire de lune de miel, c'était vraiment l'enthousiasme de la part des libérés qui accueillaient leur libérateur, 6 mois après, l'enthousiasme était mort, et je par exemple, le maire de l'Union des Trois qui disait, renvoyez-moi tout seul, je vais dire, c'était du mouvement des tirailleurs algériens. Donc on les renvoie en Algérie. D'ailleurs, les bonnes parties vont arriver en Algérie le jour du juillet 45 lors des émeutes de Séti. Ça va être tout à fait fiché. Et lorsque la loi organique de 1947 leur permet la libre circulation des partisans qui beaucoup pour échapper à la misère reviennent en métropole, mais comme ils ont connu l'Alsace, ils reviennent en Alsace. Et notamment du côté du Mouz. Et là, j'ai rencontré la consul générale d'Algérie la dernière année qui me disait aujourd'hui encore, les Algériens, c'est toujours la même région du nord de Constantine, ils sont à 80% d'Algériens. Autrement dit, le poids de la libération de l'Alsace a pesé très vite. Alors, ensuite, autre spécificité, donc il y a l'opposition au Rhin marin, le Haut-Rhin, donc où on a la majorité de ces Algériens. On dit d'ailleurs de Mulhouse que c'est une ville d'Algériens. De Strasbourg, par exemple, et c'est toujours le consulat énormément de ressortissants qui a mis tout, et le Rhin. Et puis, comment, alors, très brièvement, comment on peut distinguer les différentes phases de la guerre? En gros, moi, je fais l'image que les Algériens d'Alsace représentaient 4 strates. Strat, c'était un mot déjà dit, certains qui ont trouvé ce mot pour être clair. Vous savez, la première strate, c'est celle des libérateurs. En gros, les soldats qui se sont installés, qui ont souvent fait souche, qui ont épousé des Alsaciennes, entre parenthèses, c'est le cas de Youb Lalegue, qui a été conseiller technique du film indigène, et qui habite Pitoraille, et qui a épousé une fille du bassin classique, une Alsacienne, mais dont les parents venaient de Pologne. Il vit d'ailleurs toujours, il a une excellente fortune. Et il a travaillé à la colonie de Pologne. Bien donc, il s'installe. Ça, c'est la première strate qui, eux, ont été courtisés au début par le RPF, le Rassemblement gaulliste, n'est-ce pas, à des fins électorales. Ensuite, à partir de 1947, lorsque la circulation est ouverte de part et d'autre de la Méditerranée, on a une deuxième strate, c'est celle du prolétaire. Donc ils viennent pour moi je dis, ce n'est pas une immigration de travail, c'est vraiment une immigration de la misère. Ils viennent pour échapper à la misère de ces gens. Et ils vont travailler, par exemple, pour les loups, c'est la SACM, c'est les loups de l'Alsace, à Strasbourg, c'est les chantiers de construction. Par exemple, c'est les chantiers des voies ferrées, là, et c'est surtout les chantiers du Rhin aussi, hein, le canal du Rhin qui se fabrique à ce moment-là. Et ce sont ces gens qui vont créer de toutes pièces, parce qu'ils n'existent pas, contrairement à Paris, à Gilles, à Saint-Étienne et tout, vont créer le Parti National. Le nationalisme alsacien a été créé de toutes pièces par ces prolétaires qui arrivent à partir de 1947, qui au début se trouvent encadrés, si on veut, par le Parti communiste et qui sont adhérents de la CGT parce que leurs problèmes matériels sont tels qu'ils sont obligés, s'ils veulent obtenir quelques satisfactions matérielles, d'avoir recours à ces partis-là. D'autre part, parce que les syndicats leur demandent, s'ils implantent ce nationalisme, de liberté démocratique, donc de messagnage. Et puis, vous avez une deuxième strate qui arrive à peu près dans les années 56-58. Alors, cette strate-ci, c'est une strate des jeunes, des Algériens qui sont plus jeunes, qui viennent pour plusieurs raisons. Donc, il y a toujours la raison de chacun la raison. Et s'y ajoutent deux autres raisons qui sont soit échappés à l'armée française, qui recherche les militaires indépendantistes, qui ont été introduits, et échappés aux exactions du FLN, qui recherchent ceux qui sont trop tièdes, et pareil, et qui ne font pas de cadeau non plus. Donc, on a, par exemple, j'ai retrouvé avec vous, des familles, certaines venant en métropole pour échapper soit au FLN, soit à l'armée française. Et avec un avantage énorme, c'est que pendant qu'en Algérie, il y a l'état d'urgence, etc., en métropole, il n'y a pas d'état d'urgence. Donc l'égalité qui est reçue dans l'Algérie, elle existe en métropole. Donc on est dans le monde de la solidarité dans cette histoire. S'y ajoute encore après le fait que à partir de 56, de la loi sur les droits spéciaux du 16 mars 56, l'envoi du contingent en Algérie fait qu'il y a des postes de travail qui sont libérés, et il faut les occuper, donc les employeurs sont contents de trouver des vendeurs. Alors on a ce phénomène, c'est que les Algériens vont aller combattre en Algérie, pendant que les Algériens vont les remplacer dans les usines, ou encore avec le phénomène des frontaliers, qui sont à partir de 58 sur 5, il y a de plus en plus de frontaliers, parce que l'Allemagne et le Maroc deviennent plus intéressants. On va travailler soit en Allemagne, soit en Suisse. Et donc, il y a encore des postes de travail qu'il faut compenser. Ça, c'est la troisième strate. Cette troisième strate, on tournait de jeunes gens, est d'emblée favorable. Alors que les plus anciens 47, eux, sont restés fidèles à Messagache, qui a donc fondé le mouvement qu'on appelle le mouvement national algérien, le KMNA, et ces fonds sont résumés jusqu'à ce que les FLN l'emportent à la fin de l'année 1957. Et puis, j'ai ajouté le quatrième strat, qui est une caractéristique alsacienne. C'est qu'en Alsace, on a eu deux ans, de guerre entre le NLA et le FLN en 1956 et 1957, jusqu'à la destruction du FLN, qui n'existe plus en tant que mouvement. À titre individuel, il y aura toujours des Algériens qui restent fidèles à l'Essaïage, qui ne seront pas d'accord avec le FLN, mais il n'y a pas d'organisation qui peut se faire. Mais alors, à partir de 1958, le FLN qui a gagné s'organise en véritable État qui prend le contrôle de toute la population algérienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le FLN se pense comme étant l'État des Algériens et à ce titre leur impose un certain nombre d'obligations de loi. Alors leur impose d'abord les impôts. Chaque Algérien doit payer sa cotisation, c'est 30 000 francs, ensuite, à partir de 60, leur impose des tribunaux. Alors, il y a une recherche qui va sur la politique française. Et lorsqu'il y a des différents Algériens, c'est au tribunal algérien qui se réunit, qui convoque les Algériens qui n'ont plus de problème. Ça ne passe pas par la justice métropolitaine. Qui leur impose des obligations, j'allais dire, comportementales, c'est-à-dire ne pas boire d'alcool, ne pas fumer, c'est une amende, les amendes sont bonnes. Interdiction de déménager, sauf autorisation de la parole. Donc, par exemple, le deuxième volet à la réponse pourrait être. l'écrit de manière correcte, elle coupe l'écriture du tenant et elle coupe un véritable co-rectat qui se met en place de manière souterraine, qu'on appelle l'arabe Lisanne, ou en français l'organisation politico-administrative de l'EA, et qui a pour objectif de couper les Algériens de la France pour les prendre en main. Et justement que les Algériens ne sont pas portés par notre gouvernement de celle qui est celle qui a été choisie par le RN. Donc là, à partir de 58, c'est la police contre le RN. Alors là, on a eu la culture, la police a porté des conjectures, des tribunes, mais le RN, qui s'était inspiré de la résistance française pendant la Seconde Guerre, de la résistance des Irlandais aussi, a su mettre au point un certain nombre de méthodes telles que la moyenne, ça ne parle pas de la nuit, mais avant une arrestation, un responsable qui a donné 6 mois, réserve à 6 mois d'en être arrêté, mais au bout de ces 6 mois, il est arrêté. Ça va être, qui a été l'exception, il y a 2 ans et demi. Mais ça se remettait en place en 15-3 semaines. C'est-à-dire que ça se renouvelait de manière beaucoup plus facile à Limoges et à Auvergne qu'à Strasbourg. À Strasbourg, c'est plus facile. Et après tout ça, il y a eu moins de violence en Alsace. Il y a pu en avoir, pardon, dans le cas de Saint-Étienne, ou à Paris et dans la banlieue parisienne. Et c'est la quatrième phrase qui a permis des Algériens qui sont venus dans l'Alsace pour chercher une liberté relative. Voilà. Un certain nombre ont profité pour aller en Allemagne, il y avait les travaux de Marc Rappard, de Corrupte, qui trouvaient là-bas, ils étaient un peu plus tranquilles en Allemagne, il y avait aussi le FLN, mais c'était un petit peu. Voilà, si vous voulez, en gros, et je n'ai pas parlé de l'action alsacienne.